Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous, ravi de vous retrouver.
Eh bien nous aussi, et ce matin Julie, l'Angola vient de tourner une page de près de 40 ans.
Oui, le pays a enterré ce week-end José Eduardo dos Santos, cet homme qui sans jamais avoir été directement élu par le peuple ne l'aura pas moins présidé de 1979, donc 4 ans après l'indépendance, jusqu'en 2017, date à laquelle il a laissé la main à son ministre de la Défense. La question de ses obsèques a fait l'objet d'une querelle au sein de sa famille. Deux de ses filles s'opposaient à son rapatriement de Barcelone où il est mort. Elles ne sont d'ailleurs pas venues hier, malgré les gages donnés par la justice angolaise de ne pas les faire interpeller. Ces filles, et surtout Isabelle, sont l'objet de nombreuses enquêtes pour corruption et détournement de fonds. On sait moins, en revanche, les débats que ces funérailles nationales ont suscité ou non en Angola. Le pays est toujours en train de dépouiller les bulletins de vote des législatives organisées la semaine dernière. Pour l'instant, le parti au pouvoir depuis 47 ans, le MP, PLA est encore donné gagnant alors qu'on s'attendait à une alternance. Mais que pèse le passé dans la vie politique angolaise d'aujourd'hui ? Bonjour Didier Péclar.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques et études africaines à l'Université de Genève. José Eduardo dos Santos, donc inhumé hier, est-ce qu'il avait encore une influence quelconque en Angola ?
Il n'avait plus de pouvoir formel du tout, donc il avait été écarté du pouvoir en 2017. Lui aurait aimé se représenter aux élections, mais la direction de son parti avait préféré imposer un autre candidat, João Lourenço, qui est actuellement donc à la tête du pays. Et en fait, João Lourenço, à la surprise de tout le monde, s'est retourné très rapidement contre son prédécesseur et surtout contre son clan, parce qu'il est vrai que José Eduardo dos Santos avait coopté une partie importante de sa famille à des positions de pouvoir très influentes en Angola, sa fille à la tête de la principale compagnie de pétrole, la Sonangol, un de ses fils à la tête du fonds souverain et d'autres de ses enfants à d'autres lieux de pouvoir importants. Et João Lourenço s'est attaché, au nom de la lutte contre la corruption durant les premiers mois de son mandat, à véritablement lutter contre l'héritage de son prédécesseur. Donc au niveau politique direct, non, effectivement, il n'avait plus d'influence. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que la façon dont sa mémoire a été honoré durant les obsèques qui ont lieu ce week-end. On a mis en avant un élément très important de la biographie de José Eduardo dos Santos, qui est sa contribution à la fin de la guerre en 2002. Il est appelé l'architecte de la paix ou architecte de la paix. C'est un mot qui est revenu, enfin une expression qui est revenue très souvent ce week-end pour mettre en avant que José Eduardo dos Santos est celui qui a amené la paix en Angola. Évidemment, le sous-texte, c'est quiconque remettrait en cause la mémoire José Eduardo dos Santos remettrait en cause la paix et serait éventuellement en faveur d'un retour à la guerre, qui est aussi une manière, un message indirect à ceux qui, dans l'opposition, contestent les résultats des élections de mercredi passé.
Et sur quoi s'appuie cette lecture de l'histoire aujourd'hui, donc la fin de la guerre en 2002, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de la guerre civile angolaise. Aujourd'hui, j'ai été surprise par exemple d'apprendre que les journalistes angolais, il y avait une règle tacite entre eux, ils n'évoquent plus le passé. Quand il s'agit aujourd'hui de commenter la campagne, par exemple, il n'est jamais question du passé ou très très rarement. Comment est-ce qu'on évite les relectures de l'histoire et est-ce qu'aujourd'hui dos Santos est à sa juste place dans les discours politiques ?
On est en plein dans la relecture de l'histoire. C'était très intéressant de voir, par exemple, la façon dont les médias officiels, la télévision angolaise en premier lieu, a parlé de José Eduardo dos Santos en le présentant effectivement comme l'architecte de la paix. Or, ce qui s'est passé à la fin des années 1990, au tournant des années 2000, c'est que le parti au pouvoir, le MPLA, et surtout José Eduardo dos Santos, qui a concentré tous les pouvoirs à ce moment-là, a décidé de mettre un terme militaire à la guerre qui durait depuis l'indépendance du pays en 1975. Et à la fin des années 1990, on était comme ça dans une période de ni guerre ni paix, et à un moment donné où la société civile, au sein de la société civile, des voix très importantes, notamment dans les églises, demandaient, exigeaient même une paix négociée, une transition avec une comité vérité et réconciliation pour faire le point sur ce qui avait mené à ces divisions profondes et à cette guerre civile. À ce moment où il y avait une pression forte de la part de la société civile, José Eduardo dos Santos a imposé une fin militaire au conflit qui a été en fait très violente. Ça n'a pas du tout été un combat de basse intensité tel qu'il est est présenté encore aujourd'hui. Et ça lui a permis, effectivement, bon, après la mort au combat de José Savimbi, qui était le fondateur de l'UNITA, mort au combat le 22 février 2002, de mettre en œuvre rapidement, disons, une reddition de l'UNITA. Alors, effectivement, l'arrivée de la paix a été saluée par tout le monde, et José Eduardo dos Santos a eu la grande intelligence politique de ne pas se retourner contre ses anciens opposants. Il n'y a pas eu du tout de politique de vengeance. Au contraire, il y a eu une politique d'amnistie. Amnistie complète. On n'est pas revenu sur les crimes commis durant la guerre par l'un ou l'autre, des partis. Ce qui a permis effectivement, en tout cas, directement une réconciliation, ou en tout cas, ça a évité que des problèmes ressurgissent après la fin de la guerre. Mais ça a été aussi surtout un moyen pour le MPLA et pour la petite élite au pouvoir autour de José Eduardo dos Santos de concentrer tous les pouvoirs, puisque grâce à sa victoire militaire, il n'avait aucune concession à faire à quiconque, que ce soit dans la société civile ou parmi les autres partis politiques. Et ce qu'on a vu depuis 20 ans maintenant, depuis la fin de la guerre, c'est effectivement une forte concentration des pouvoirs, une centralisation des pouvoirs, un développement économique, un boom économique fantastique durant une dizaine d'années entre 2002 et 2014 à peu près, et un boom économique qui a profité surtout à cette toute petite élite au pouvoir et de plus en plus au clan biologique, à la famille biologique et non plus politique de José Eduardo dos Santos, qui a contribué à sa disgrâce politique au sein du MPLA en 2017.
Alors, il serait ardu, Didier Pléclard, d'entrer dans le détail de la vie politique de l'Angola, mais pour être schématique, donc deux parties, la structure que vous avez citée, le MPLA qui gouverne le pays depuis l'indépendance en 75 et son principal rival, l'UNITA. On a bien entendu ce que vous venez de dire, hein, Didier Pléclard, c'est que chacun continue à proposer une sorte de relecture de l'histoire. Le MPLA, en parlant de Dos Santos, le président inhumé hier comme celui qui a arrêté la guerre civile, mais l'UNITA récupère peut-être plus la figure de Jonas Savimbi, présentée comme une figure rebelle aujourd'hui. Mais quels effets sur les électeurs angolais, puisque l'Angola votait la semaine dernière, 14 millions d'électeurs inscrits sur les listes. Est-ce que ça fait mouche, ces références-là au passé? À qui ça parle?
Ces références-là, en fait, n'ont pas vraiment été utilisées durant la campagne. C'est une des choses qui est intéressante. C'est vraiment au moment des obsèques de José Eduardo dos Santos que cette histoire ressort. L'UNITA a fait campagne, en fait, d'une part contre le bilan du MPLA, en disant, voilà, après près d'un demi-siècle au pouvoir, il y a encore une immense pauvreté, il y a des immenses inégalités, une partie importante de la population angolaise vit dans l'extrême pauvreté. Ça, c'est un fait qui, certes, peut être contesté par le MPLA, mais qui est quand même avéré. Il y a un grand sentiment de marginalisation de la part de groupes sociaux très importants au sein de la société angolaise, et notamment de la part des jeunes urbains qui se sentent marginalisés et sans aucun espoir, en fait, malgré le fait qu'ils aient pour beaucoup une très bonne formation. Et l'intelligence de l'UNITA durant cette campagne, l'UNITA qui d'ailleurs a fait front commun avec deux autres partis, et ça a été un élément très important de son succès dans cette campagne. Son intelligence politique, excusez-moi, ça a été de parler à cette jeunesse marginalisée, alors même que, historiquement, l'UNITA était un parti qui avait, à l'époque de Jonas Savimbi, toujours fait campagne, ou construit sa base sociale, non pas au nom des jeunesses urbaines, mais plutôt au nom de la défense de l'Angola de l'intérieur, de ce que l'UNITA appelait la vraie Angola, c'est-à-dire l'Angola africaine, noire, contre les élites des villes créolisées par le fait qu'il y a eu une présence portugaise pluriséculaire et avec des accents très, très fortement ethnicistes et racistes par moment. Et l'UNITA du nouveau président, Adalberto Costa Junior, a véritablement changé de discours, notamment parce qu'en 2017, ils avaient vu qu'ils avaient déjà un soutien important de la part de cette jeunesse très politisée, active dans différents mouvements civiques. Une partie de ces jeunes ont même été cooptés sur les listes de l'UNITA pour les élections législatives, ce qui lui a d'ailleurs assuré un succès très important dans la ville et la province de Luanda, qui est évidemment de loin la ville la plus peuplée d'Angola. Alors les résultats ne sont pas définitifs et ils sont contestés, mais en tous les cas, plus de 65% des voix en faveur de l'UNITA, ce qui est un véritable raz-de-marée, bien sûr.
Baptiste Meckensturm.
Oui, les Didier Péclair, les deux partis ont fait campagne dans cette élection contre la corruption, pour une meilleure redistribution des richesses, en particulier l'argent de la manne pétrolière.
Et est-ce que cette promesse a été tenue, notamment par le successeur de Dos Santos?
Oui et non, c'est-à-dire qu'il a eu le courage de s'affronter directement au clan Dos Santos, qui, il est vrai, était très critiqué au sein de la société angolaise dans les années 2010, du fait de la concentration énorme des richesses dans les mains d'une seule famille, finalement. Et effectivement, personne n'imaginait que un de ses fils, Zenou, le président du Fonds Souverain, directeur du Fonds Souverain, allait se retrouver en prison très rapidement, qu'Isabelle, qu'on appelle la princesse en Angola, se retrouverait elle aussi sous le coup de multiples accusations qui font qu'elle ne peut pas revenir en Angola et qu'elle a refusé de revenir pour les obsèques de son père. Donc ça a surpris tout le monde. Après, rapidement, on a vu que cette campagne anticorruption était en fait limitée à un cercle très restreint autour de la famille Dos Santos et des fidèles politiques de l'ancien président, et que, en fait, d'une campagne anticorruption, on avait plutôt l'impression qu'il s'agissait d'un règlement de compte ou d'une lutte entre factions à l'intérieur du MPLA. Et c'est ce bilan-là, enfin c'est cette observation-là, en tout cas, sur laquelle l'UNITA a notamment basé sa campagne, parce qu'effectivement, João Lourenço, qui avait suscité d'énormes espoirs, y compris au sein de la jeunesse très politisée, a en fait rapidement douché ses espoirs.
Didier Péclair, l'Angola est le deuxième pays producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne. Donc il a beaucoup souffert de la chute des cours pendant la pandémie de Covid-19. Le prix du baril est en train de remonter, donc le pays essaye de tirer son épingle du jeu. Néanmoins, est-ce que le pouvoir, depuis la succession de Dos Santos, a investi dans une économie plus durable, l'agriculture par exemple? Est-ce qu'on sent l'économie se transformer peu à peu? Et par ailleurs, j'ai lu que Luanda était l'une des capitales les plus chères du monde en Angola. Comment ça se fait?
Alors, la diversification de l'économie, c'est l'arlésienne angolaise depuis très longtemps. Plusieurs fois, enfin, de façon répétée, on promet effectivement une diversification, parce que le pays reste dépendant de la manne pétrolière à 95% à peu près. Mais cette diversification ne se fait pas, bon, probablement parce que c'est compliqué. C'est pas si simple que ça que de diversifier une économie qui est depuis des décennies très tournée vers l'extérieur et vers la commercialisation des matières premières. Il y a le pétrole, mais aussi le diamant, il y a d'autres matières. Mais je crois que ça va au-delà des difficultés techniques. C'est vraiment une vision de sa place dans le monde et une vision de la gestion du pouvoir. Gérer une rente pétrolière ou une rente diamantifère, c'est gérer une ressource qui passe par des canaux très centralisés. Et ça permet aussi de gérer, en fait, l'enrichissement ou l'accession à des positions de pouvoir économique et politique de l'ensemble de la classe politique et de la classe d'affaires en Angola. Et la crainte qu'a le pouvoir au cours les différents tenants du pouvoir en Angola, c'est qu'en diversifiant l'économie, on risque de créer éventuellement une bourgeoisie d'affaires internationalisée qui pourrait être un lieu de, si ce n'est de contestation du pouvoir, en tout cas une façon d'acquérir un statut social et économique qui ne passerait pas par les organes du parti et par le contrôle de l'État. C'est ce que l'historien américain Fred Cooper a appelé l'État garde-barrière, cet État qui se construit autour du contrôle des flux, en fait, financiers et autres entre l'intérieur et l'extérieur du pays. Et je crois que c'est cette structure économique-là qui était fondamentale à la construction du pouvoir et à la formation de l'État post-colonial en Angola. C'est cette structure-là du pouvoir politique et économique qui serait remise en cause, qui pourrait être remise en cause par une diversification, et que les différents pouvoirs en Angola ne veulent pas surtout remettre en cause.
En attendant, les États-Unis, par exemple, verse beaucoup d'argent pour le développement notamment de l'énergie solaire, et on aura pas le temps, Didier Péclair, d'évoquer les alliances aussi que nous aujourd'hui l'Angola avec l'extérieur. Le MPLA au pouvoir a longtemps été donc marxiste, proche à l'époque de l'URSS et de Cuba. Aujourd'hui, se rapproche de la Russie et de la Chine, mais avec toujours les États-Unis et le FMI notamment, et puis l'Union européenne aussi. Hein, Total est présent, le français Total est très présent en Angola. Les alliances sont multiples. Merci beaucoup, Didier Péclair, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques et études africaines à l'Université de Genève.
Merci Julie.
Merci à vous.
Merci. Les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h40.
France Culture. L'esprit d'ouverture.